Cette semaine, Guillaume Erner rencontre Jean-Claude Michéa. Ce soir, la chance d'avoir des parents communistes.
Voici donc un À Voix Nue, une série en 5 épisodes, bien sûr, consacrée à Jean-Claude Michéa. Je pourrais tenter de vous présenter brièvement Jean-Claude Michéa en disant « c'est un philosophe ». Oui, mais la réalité est un peu plus complexe parce que Jean-Claude Michéa a d'abord enseigné la philosophie, puis il a publié son premier livre alors qu'il avait déjà 45 ans. Entre-temps, ce Parisien avait déménagé à Montpellier. Bonjour Jean-Claude Michéa.
Bonjour.
Alors pourquoi n'aimez-vous pas les interviews ?
Mais je suis pas sûr d'avoir une réponse. Ou alors ça serait celle du prince de ligne, l'humeur, l'horreur, l'honneur. Il peut y avoir derrière une position théorique. En tant que lecteur de Guy Debord, je me suis toujours méfié du monde des médias. Mais en fait, la réponse la plus simple, la plus désespérément simple, c'est que ma devise a toujours été « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et que j'ai commencé à écrire mon premier livre à 45 ans et sans vraiment avoir choisi de devenir un écrivain. Je m'estime pas du tout écrivain. C'est alors qu'a commencé les demandes d'interview, et c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît surréaliste. J'ai l'impression qu'on m'arrache à la planète sur laquelle je vis pour me faire entrer dans un monde qui n'est pas le mien. Bon, je peux pas en dire plus, c'est vraiment une question, avant d'être une question théorique, parce qu'on peut toujours rationaliser et faire du Guy Debord après coup, mais avant Guy Debord, c'est simplement « j'aime pas ». Il y a des choses que j'aime pas. Je ne me sens pas chez moi dans le monde médiatique, bien que j'ai eu un père journaliste, mais c'est une autre histoire.
Mais c'est justement cette histoire-là qu'on va essayer de vous faire raconter, Jean-Claude Michéa, parce que votre père était journaliste, votre naissance est parisienne, vous êtes né en 1950 dans le 12e arrondissement à Paris. Dans quel milieu, racontez-nous.
Alors là, c'est... La formule qui s'impose d'elle-même, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. En plus, ce film se passe précisément à l'époque où j'habitais dans le 12e, et il se passe dans le 12e arrondissement. Et ce milieu, c'est ce milieu qui aujourd'hui paraît totalement exotique, une famille communiste des années 50, elle-même issue de toute une dynastie de rouges des années 20, de rouges de la fin du 19e siècle, dans mon village bourguignon, où j'allais chez mes grands-parents, la bibliothèque municipale, tombée en désuétude depuis, avait été fondée au lendemain de la commune par un des ancêtres de la famille. Donc je suis vraiment tombé dans la marmite petit. Et j'avais donc deux parents permanents du Parti communiste qui s'étaient rencontrés dans la résistance. Ma mère, qui était sténotypiste, avait été recruté par le Parti communiste pour travailler comme sténotypiste à l'agence France-Presse du PC, ce qu'on appelait l'UFI, l'Union Française d'Information. Et mon père, grand sportif devant l'éternel, au lendemain du maquis, avait été chargé des rubriques sportives de la presse communiste et était devenu à la fois le fondateur du Miroir du cyclisme et le rédacteur en chef de la page sportive pendant très longtemps de l'Humanité. Donc, en résumé, la double étoile de naissance, c'est d'un côté la révolution, de l'autre le sport.
Michéa, ça vient d'où ?
Toutes les recherches généalogiques font naître les Michéa en Côte d'Or, dans un petit village qui s'appelle Malin, où il y a une grande partie des habitants qui s'appellent Michéa. Maintenant, j'ai une demi-sœur qui a fait des recherches généalogiques plus ou moins fantasmées et qui dit qu'au XVIe siècle, à l'époque de Charles Quint, on aurait fait venir de Bohême-Moravie des viticulteurs pour implanter un peu les vignes dans cette région de France. Et Michéa serait dans cette hypothèse un nom qui viendrait de Moravie ou de Bohême. Mais bon, ça je le pense comme un roman familial plutôt qu'un quelque chose de vérifié. En tous les cas, dès le XVIe siècle, tous les documents qu'on a, les Michéa sont issus de Côte d'Or.
Une demi-sœur ?
J'ai une demi-sœur, une fille de mon père d'un premier mariage, qui vit, mon père est né à Annecy, et savoyard d'origine. Il est né par accident à Guéret dans la Creuse, comme moi à Paris, et elle vit toujours dans cette région.
D'autres frères et sœurs en dehors
de
cela ?
Pas du tout. Enfant unique, mais non par choix, pré-bobo de ma mère, simplement après ma... Après son accouchement, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et donc, je me suis retrouvé dans la position d'enfant unique. qui n'est jamais la meilleure sur le plan intellectuel. La Chine est un pays où dans les zones urbaines, on ne rencontre que des enfants uniques. Et je me demande s'il n'y a pas un rapport entre la folie capitaliste des grandes métropoles chinoises et le fait que c'est un pays unique au monde, puisque peuplé d'enfants uniques. C'est donc un grand combat pour essayer de se débarrasser du marquage de cette situation qui doit avoir quelques avantages. Ça prédispose peut-être à la rumination intellectuelle, mais qui n'est pas la posture la plus favorable pour s'initier à la common decency.
On reparlera de la common decency, autrement dit de la décence commune, c'est une expression d'Orwell que vous affectionnez, Jean-Claude Michéa. Du coup, enfant protégé, enfant que l'on considérait comme adulte alors qu'il était encore petit, comment était votre enfance, Jean-Claude Michéa?
D'abord, c'est un père qui était très souvent sur les routes, Tour de France, course de la paix, etc. Donc un père dont j'étais très très fier parce que il avait ce privilège d'être l'ami de Louison Bobet, de Jacques Anquetil, de Raymond Poulidor, c'est-à-dire les grandes figures historiques de mon enfance. Mais une éducation probablement très 1950, où la notion d'autorité était relativement là, mais accompagnée d'une ouverture d'esprit très communiste, qui faisait que j'avais le droit d'intervenir à table pour participer aux conversations des adultes, à condition d'être sûr que ce que j'avais à dire avait un intérêt. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. J'ai plutôt vu autour de moi, plus tard quand j'étais professeur, chez les amis, les enfants de 10-11 ans se lever dès que leur repas était fini et laisser les adultes ensemble. J'ai été élevé encore à cette époque où les enfants entendaient les conversations des adultes. Et ça m'a donné une conscience politique prématurée, rétrospectivement, mais qui était à la limite voulue par les parents, parce que je me rappellerai toujours, par exemple, d'une anecdote incroyable. Lorsque je suis rentré en 56 ou 57 à l'école primaire, mes parents, qui n'étaient jamais dans la solennité, la veille de mon entrée à l'école, c'était la première fois de ma vie que j'allais à l'école primaire, se sont réunis autour de la table familiale de la cité HLM où on habitait dans le 12e arrondissement, et m'ont dit, tu as 6 ans, demain tu vas rentrer à l'école primaire, il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que les communistes, on doit être les meilleurs partout. Tes notes à l'école doivent faire honneur au parti communiste. Et idéalement, il faut que tu sois le premier, c'est pour le parti, parce qu'il faut que les gens considèrent qu'on est exemplaire de nos attitudes, et que si on les exhorte à faire la révolution, c'est qu'on a la légitimité pour le faire. Je ne sais pas si c'est un discours qu'on entend beaucoup de nos jours chez les enfants de 6 ans. C'était très naturel à l'époque. J'avais quand même fait exclure mes parents d'un match au Veldiv URSS États-Unis en 1953 parce que je hurlais « À bas les Américains, vive les Russes, vive les Russes !» J'avais quand même 3 ans à l'époque. Et je suis parfaitement conscient qu'aujourd'hui, on dirait « Mais c'est un formatage, une propagande absolument scandaleuse !» Et j'ai pas le souvenir de parents fanatiques, ils ne l'étaient absolument pas. Mais c'était l'époque, une époque dont je reconnais bien volontiers aujourd'hui que les gens qui n'ont pas connu le bloc soviétique, je suis né quand Staline était encore vivant, et toute cette contre-société qu'était la vie familiale et le monde communiste de l'époque, c'est quelque chose qui doit leur apparaître aussi exotique qu'une tribu de papous aujourd'hui.
Et alors, du coup, cette éducation, elle était par exemple sur le plan livresque, sur le plan de vos distractions. Est-ce que tout tournait autour du Parti communiste?
Le Parti communiste, c'était à la fois un parti dans son organisation très stalinienne. Et c'est même pour cette raison, finalement, que le système s'est effondré et que l'idée socialiste a été démonétisée pour des décennies, mais c'était aussi une contre-société extraordinaire. À l'époque, un Français sur 4 votait communiste. Dans les cités HLM, le parti s'adressait aux anciens combattants, aux veuves, aux jeunes, etc. La grande fête de l'année, c'était la fête de la réunion de cellules du quartier, hein, ou de la fête de la CGT à rue Jean-Pierre Timbaud. On était immergé dans une autre société, Je me rappelle d'ailleurs à quel point j'ai été étonné quand j'ai appris un jour qu'un voisin n'était pas communiste. J'avais 6 ou 7 ans à l'époque, ça m'avait étonné qu'on puisse ne pas être communiste.
Votre père était souvent sur les routes, donc c'est plutôt votre mère qui était à la maison avec vous. Quelle éducation vous donnait-elle, elle, quel rôle a-t-elle joué, Jean-Claude Michéa?
C'est une mère à l'ancienne, issue des familles les plus populaires, mais avec une véritable culture. Mais le problème se pose presque comme pour mon père, parce qu'elle travaillait le soir très tard, c'est-à-dire que j'ai passé toute mon enfance sans voir mes parents le soir. C'est une voisine qui me couchait. Alors je sais que maintenant il y a prescription, on peut le dire. Elle me s'occupait de moi dans la journée, une voisine de la cité HLM. À 9h, elle me raccompagnait chez moi et me laissait dormir dès l'âge de 3 ans, seul, jusqu'à minuit, heure à laquelle ma mère rentrait. Alors je suppose qu'à l'époque, à laisser un enfant de 3 ans seul dans un appartement
en
train de dormir, non. Je n'ai pas souvenir que ça m'ait particulièrement traumatisé, mais j'ai parfaitement conscience qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vaudrait toute une série de lettres sur les réseaux sociaux, de mails indignés, et mes parents seraient peut-être en prison dans la société moderne. Mais à l'époque, c'était des choses banales. De temps en temps, la voisine venait passer à 11h pour voir s'il n'y avait pas le feu, mais... C'était l'époque, si l'on veut, où, en courant, on tombait par terre et s'écorchait le genou, les gens disaient « c'est le métier qui rentre ».
Les vacances, à l'époque, quand on était communiste, c'était...
Les vacances, ça a toujours été chez les grands-parents, en Côte d'Or, et chez une vieille tante qui était dans un village de l'Aisne, pas loin de Laon et de Soissons. Dans ces villages où il y avait encore, dans mon enfance... pas d'eau courante, pas de chauffage central. Ce qui veut dire que les gens qui sont nés dans les années 50, même quand on vivait à Paris, on n'avait ni douche, ni salle de bain, ni rien, dans les HLM de l'époque, on était par certains côtés plus près des conditions de la fin du 19e siècle, aller chercher l'eau, se chauffer au charbon, que de l'époque d'aujourd'hui. Mais ça, c'est banal, tous les gens qui ont vécu cette époque... se souviennent d'un monde qui ressemblait plus à celui qu'on trouvait dans les livres de la fin du 19e siècle. Le 20e arrondissement, j'habitais à côté, c'était encore un arrondissement, avec les fortifications, la zone, etc., où la télévision, tous les films qui étaient censés se passer au 19e siècle, étaient tournés dans le 20e arrondissement. Il suffisait de masquer les fils électriques, et on avait reconstitué le Paris des années 71.
La zone, c'était... Un nom propre, c'était pas...
Oui, je crois que Zonard vient de là, mais il y avait les fortifications, et puis c'était un terrain vague où on allait jouer, même le lycée Paul Valéry était borné par la zone, c'était le cadre de l'enfance avec la pelouse de Reuilly, mais j'en ai que des souvenirs émerveillés.
Des souvenirs d'autres quartiers de Paris, vous vous baladiez dans Paris?
Non, on était vraiment du 12e, quelques extensions vers les copains du 20e. Et puis, quand je suis devenu plus adolescent, de temps en temps au lycée, je commençais à rencontrer des copains qui appartenaient à la bourgeoisie. Donc j'ai découvert, avec là vraiment un étonnement incroyable, le quartier de Saint-Mandé, là où vivaient les bourgeois de l'époque. Et je me souviens avoir découvert Saint-Mandé comme étant une région exotique qui ne ressemblait à rien, l'ampleur des maisons, etc. Voilà. Mais je me souviens encore que en mai 68, ayant dû une fois porter un courrier révolutionnaire dans le 16e arrondissement, je savais pas où se trouvait le 16e arrondissement. J'avais dû me faire guider je ne sais pas comment, et quand j'étais arrivé en sortant du métro, en voyant pour la première fois à 18-19 ans le 16e arrondissement, je n'en croyais pas mes yeux. C'est-à-dire que j'avais toujours été habitué à vivre soit dans le 12e, soit, c'est vrai, chez les copains de la banlieue rouge, où évidemment, comme les mairies étaient communistes, on allait souvent là-bas. D'ailleurs, une chose qui témoigne vraiment du changement d'époque... Quand en 72, j'ai eu la grègue et qu'on nous a demandé les vœux pour devenir enseignant, où voulez-vous aller? Comme beaucoup de copains du parti, qu'est-ce que j'avais demandé en premier? Uniquement la banlieue. Mantes-la-Jolie, le 9-3, ce qui est maintenant le 9-3 et autres. Pensez qu'en 72, l'image de la banlieue, c'était encore, c'est là qu'on vit bien, parce que dans notre HLM, encore une fois, les salles de bain et les douches n'existaient pas. Se laver, c'était dans l'évier de la cuisine. Et on savait qu'en banlieue, il y avait des douches. Et Yves Lacoste l'a démontré. Que le géographe, si la population a changé, c'est qu'à un moment donné, la banlieue est devenue tellement demandée, loin d'être un ghetto, comme la pensée Paris 8 le laisse entendre de nos jours, c'était tellement demandé qu'à partir d'un moment, il a fallu réguler la possibilité de s'installer en banlieue. Et on a pris comme critère les familles nombreuses. Du coup, le taux de fécondité des familles d'origine maghrébine et africaine étant plus élevé, les banlieues sont progressivement devenues maghrébines et subsahariennes, mais c'était pas du tout, Yves Lacoste le rappelle, dans le cadre d'une politique de ghetto, de relégation, c'était le contraire. Puisque c'était un privilège de vivre en banlieue avec des espaces plus grands, des équipements culturels qu'on n'avait pas dans les quartiers ouvriers de Paris, eh bien, le biais des familles nombreuses a fait que ça a changé de composition culturelle. Mais c'était pas du tout une zone de ghetto.
Le rapport à l'argent de vos parents, parce que donc ils étaient tous les deux salariés du PCF, quel rapport avait-il avec l'argent?
Là, je peux vous raconter deux choses. D'une part, c'était des permanents. Permanents du Parti communiste, ça veut dire quoi? En tant que statut de journaliste, ils étaient payés, un, au minimum syndical, et deux, sur ce minimum syndical, ils devaient en donner la moitié chaque mois au parti. Ça veut dire que mes parents m'ont élevé avec un salaire véritable. Pour ça que j'étais boursier à temps complet. Mais chez eux, il y avait un désintéressement tout à fait extraordinaire. Je me rappelle une des quelques anecdotes que mon père m'avait racontées dans les années 50. C'était déjà un journaliste très connu dans le domaine du sport. Une radio était venue le voir. Je crois que c'est une radio privée qui existe toujours, une des premières radios privées, en lui proposant de venir travailler chez eux, mais à une condition, de dénoncer le Parti communiste et de le quitter. Et mon père me racontait toujours, on était vers le 20 du mois, il lui restait sur lui, en argent, de quoi payer les 3 bières de cette réunion, et il avait dit, alors qu'il n'avait plus rien, c'était son dernière somme d'argent qui restait, il avait payé les bières de ces journalistes en disant « je ne veux rien avoir à faire avec vous, avec ce que vous me demandez de trahir le parti ». Et puis l'autre, c'est plus anecdotique, j'ai vécu sous un système, quand vous posiez la question de ma mère, c'est un régime déjà matriarcal. Les Michéa sont des familles où les femmes commandent aux hommes. Et dans le cadre familial, ça veut dire que c'était l'époque où on était payé en liquide. Et mon père, chaque mois, donnait son enveloppe avec l'argent liquide de la paye que le parti donnait à ma mère qui gérait tout. Et je me souviens d'une fois où il avait été augmenté par le parti, ça faisait un billet de plus, mais des pièces en moins. Or, quand ma mère prenait les billets, elle laissait toujours, comme pourboire à mon père, les pièces, en sorte qu'une augmentation du PC s'était traduite un jour par moins de pièces et de ferraille pour lui, par une diminution. Ça m'avait assez frappé. Mais ça donne aussi une image, une famille matriarcale, où c'est la femme qui commandait, qui disposait du pouvoir économique et qui travaillait, et un père bohème, épicurien, un peu très poète, hein, pour qui l'argent n'existait pas, et le tout dans un cadre de revenus mensuels extraordinairement réduit. Est-ce que c'est la peine d'ajouter qu'à 68 ans, j'ai jamais touché un centime d'héritage et que je vis dans une famille où l'héritage n'existait pas?
Est-ce que vous vous souvenez d'avoir manqué de quelque chose, Jean-Claude Michéa?
Non. C'est ça qui est extraordinaire. La société de consommation n'était pas poussée dans les années 50-60 au point qui est aujourd'hui le nôtre, l'idéal consumériste. Mes parents ne l'avaient pas. Mais ça, c'est aussi pour comprendre pourquoi rien ne me manquait. C'était l'époque où le Parti communiste, il faut lui donner ce crédit, rendait les ouvriers et les gens des catégories modestes fiers. On était fiers d'être ouvriers. Même en 68, je me rappelle encore, les étudiants bourgeois de la Sorbonne étaient prêts à s'inventer des origines ouvrières pour avoir le droit à la parole. Autrement dit, chez mes grands-parents, autour de moi, les gens étaient mais spontanément fiers d'appartenir aux classes dites défavorisées ou prolétariennes. On n'enviait absolument pas, du moins dans les familles, à éducation communiste. Les riches, on avait plutôt pour envers eux mépris et pitié. En sorte que je n'ai jamais eu le sentiment d'être quelqu'un à qui il manquait quelque chose. Et quand on combine ça avec la fierté d'appartenir à la classe ouvrière, c'est ça qui fait que quand je lis par exemple un Didier Ribon disant « Quand on est d'origine populaire, et il l'est, on a toujours honte de ses origines ». Mais ça, ça résume Didier Ribon à la perfection. Nous, on n'a jamais eu honte de nos origines. On en était, à la limite, très fiers. Je me rappelle, il existe peut-être encore, il se reconnaîtra, un jour en Russie, on avait un camarade communiste plutôt de classe, un jeune un peu plus supérieur, mais qui s'appelait Valia l'Ouvrier. Valia, les parents avaient donné un nom russe, et son nom de famille était l'Ouvrier. Mais on était en extase devant lui. Quelle chance de s'appeler l'Ouvrier. Est-ce que, après les décennies Bernard Tapie, après le décennat Sarkozy-Hollande, et à l'époque de Macron, quelqu'un qui s'appellerait l'Ouvrier en tirerait une fierté? Est-ce que tous les gens qui l'entourent diraient oh, « quelle chance de s'appeler l'Ouvrier ». Ben, à mon époque, c'était ça. Et c'est pour ça que je vis d'ailleurs très mal toutes les critiques qu'on fait parfois de... y compris des gens qui sont vraiment pas parmi les plus nocifs de la pensée dominante, des critiques du populisme, même à la Lordon. Mais des fois, quand il dit les classes populaires, Michéa les idéalise, hein, quelqu'un des classes populaires, il peut aussi bien lever le bras pour Hitler, persécuter les homophobes, que se comporter correctement. Mais je dis, faut avoir jamais vécu dans les classes populaires pour oser dire des choses aussi aberrante. Et si on revient sur mon immersion actuelle dans la France périphérique du Sud-Ouest...
Puisqu'actuellement, Jean-Claude Michéa, vous habitez dans le Sud-Ouest.
Oui, dans un petit village qui est à 10 km du premier commerce. Le village tel que le décrit Christophe Gulli lorsqu'il doit parler de la France rurale périphérique. Mais ce que je vois autour de moi, je retrouve les années 50 dans lesquelles j'ai été élevé.
Lorsque vous vous projetez dans votre enfance, Jean-Claude Michéa, quels étaient vos loisirs? Donc, vous nous avez parlé du football, les livres. Est-ce que c'était important?
Alors, il y avait le football et le sport, mais comme mes parents n'étaient pas là la journée, je restais très souvent dans l'appartement de la cité HLM, seul, enfant unique, donc seul par la force des choses, et le compagnon numéro un de ma vie, c'était la bibliothèque avec les livres. J'ajouterais que c'est même comme cela que, dès l'âge de 14 ans, j'ai décidé d'être prof de philosophie. Et pour une raison très simple, mes parents, dans cette bibliothèque, recevaient, comme souvent les communistes abonnés aux éditions de Moscou, éditions sociales et autres, on recevait tous les livres soviétiques. Ce qui fait que moi, entre 10 et 15 ans, j'ai lu tous les prix Staline, tous les romans Vadim Sobko, Alexis Tolstoï, etc., que je lisais de la même manière que les classiques français à l'école. Et puis mes parents, ça c'est quelque chose de très années 50, avaient dans leur bibliothèque, située au plus haut, fallait monter sur un tabouret pour y accéder, un enfer, où on mettait les quelques livres qu'un enfant ne devait pas lire tant qu'il ne serait pas grand. Attention, c'était pas dire ces livres, tu ne les liras pas parce qu'ils sont sales, mais parce qu'il faut que tu attendes d'avoir grandi pour les lire. Dedans, je me rappelle, il y avait Lady Chatterley, Victor Marguerite, les auteurs comme ça, beaucoup d'auteurs pacifistes et anarchistes d'ailleurs. Et évidemment, la première chose que je faisais dès que mes parents n'étaient pas là, c'est de monter sur un tabouret et de lire à 11-12 ans l'amant de Lady Chatterley, etc. Et il se trouve que mes parents, avec les romans des éditions de Moscou, recevaient quelques ouvrages de philosophie soviétique, et notamment, ils avaient « Matérialisme et empériocriticisme » de Lénine. En voyant le titre, c'était des gens cultivés, mais pas philosophes et pas intellectuels, ils ne savaient pas où le mettre. Alors, ils l'avaient mis au rayon de l'enfer. Ce qui fait qu'à 14 ans un jour, en montant sur le tabouret, après avoir pris tous les ouvrages érotiques ou autres, j'arrive à ce volume cartonné, je vois Lénine, matérialisme et empéocriticisme, et je l'ai lu en cachette. Je le reportais tous les soirs. Je comprenais vraiment pas pourquoi on l'interdisait, mais ça me passionnait. Et ça a beaucoup fait pour décider, dès l'âge de 14 ans, que je serais philosophe ou professeur de philosophie, mais j'en parlais pas à mes parents parce que je voulais pas leur dire que j'avais découvert Lénine dans le rayon interdit. Mais je me demande si, de manière très freudienne, la philosophie a pas eu l'attrait du fruit défendu. Ce qui fait que si j'étais parent aujourd'hui, je dirais toujours à des nouveaux parents, si vous voulez que des enfants lisent des livres absolument, Shakespeare ou Molière, inventez un rayon interdit et mettez-le là. Sauf qu'il n'y a plus de rayon interdit et la pédagogie s'en ressent. Ça me fait penser d'ailleurs à un deuxième point, c'est que beaucoup de jeunes que j'ai connus dans les milieux d'extrême gauche, dans ma jeunesse et plus tard, c'est des gens qui s'étaient construits comme radicaux et révolutionnaires au terme d'une rupture avec les parents et notamment avec le père. Ça, quand on regarde le problème du rapport au père dans les milieux d'extrême gauche, Antifa, Bad Block et autres, c'est carrément une leçon de psychanalyse. D'ailleurs, Gilles Kepel a montré que ce qu'on oublie toujours quand on étudie les jeunes déradicalisés, c'est que il y a un trait qui est quasiment récurrent, c'est l'absence du père. Mais moi, j'ai eu un père dont j'étais fier, que j'aimais, qui était un personnage tout à fait, pas un gabin violent, mais un personnage doux, très aimant, parlant avec moi d'égal à égal dès qu'il s'agissait de politique. Et comme par ailleurs, cette famille, descendante de famille qui avait toujours été rouge depuis toujours, je ne suis pas devenu révolutionnaire par rébellion contre le père, mais par conservatisme, pour conserver la tradition familiale. Et ça, je sais que ça donne une autre mentalité. Il n'y a jamais eu chez moi, il me semble, de ressentiment, de problèmes oedipiens à liquider. Je me suis inscrit très naturellement dans une filiation qui remontait jusqu'à la commune.
Merci Jean-Claude Michéa.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Guillaume Erner avec Jean-Claude Michéa. À voix nue, réalisation Gaëlle Gilon, prise de son Philippe Mercher, Julien Douminc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.